Vous écoutez RTL.
Bel après-midi sur RTL. C'est l'heure de la curiosité. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, bonjour à tous les deux.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour Bénédicte, bonjour à toutes et à tous. C'est donc la curiosité, c'est jusqu'à 15h, c'est sur RTL et c'est avec Sidonie.
J'ai bien présenté.
Tout dit dans l'ordre, hein.
Vous avez tout dit, c'est tout bon. Bonjour Thomas, bonjour les curieux tout à l'heure. On vous dévoilera les coulisses d'un succès, l'Escape Game, ce jeu d'immersion où il faut résoudre des énigmes pour sortir d'une pièce. Mais qui a inventé ce concept diabolique? Pourquoi c'est devenu un loisir incontournable? Et aussi, quels sont les lieux les plus insolites en France où vous pouvez y jouer? Réponse vers, allez, à peu près 14h30. Plus ou moins une minute.
Oui, hein. Un petit peu plus d'ailleurs. Mais d'abord, on vous emmène en avant-première visiter l'exposition Toutankhamon.
14h, 15h.
C'est un mystère vieux de 3300 ans.
La curiosité d'un vilain défaut.
Depuis la découverte de son tombeau en 1922, Toutankhamon fascine le monde entier.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ça fallait pas me réveiller, les gars! Ouais, je vais être obligé d'assouillir ma vengeance millénaire maintenant.
Bon?
Ben oui, vous avez pas vu le mot à l'entrée?
Ben non.
Mais canard, canard, mec de profil, petit lapin. C'est-à-dire, faut pas réveiller le mec du fond. Et le mec du fond, c'est Bibi.
Sur RTL.
Le mystère de Toutankhamon version Verino, voilà. Évidemment, on va être beaucoup plus précis grâce à nos invités. Bonjour Dominique Farou.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes égyptologue, conseiller scientifique de cette exposition. Bonjour Marc Gabold.
Bonjour.
Bienvenue à vous aussi, égyptologue. Vous avez signé une partie du dossier que le magazine Historia consacre à Toutankhamon en partenariat avec RTL. Bon, je dis visite en avant-première, c'est pas une fausse promesse. L'expo se tient à la Villette à partir du 23 mars. Dominique Farou, déjà, tiens, est-ce que, on va dire, trois semaines, un peu moins d'un mois de l'ouverture, vous avez déjà réceptionné certains des objets ou tous les objets?
Non, ils ne sont pas encore arrivés.
D'accord.
Je ne vous dirai pas quand ils arrivent.
Pourquoi c'est secret?
Oui.
Mais ils arrivent comment? Par camion, par bateau,
si
par avion?
Des comme ça.
On peut pas y aller, des choses comme ça?
Parce que c'est presque une affaire d'État de faire venir des objets d'Égypte.
Vous imaginez, c'est Fort Knox qui se déplace quand même.
Combien de pièces, combien d'objets on va pouvoir admirer dans cette exposition à la Grande Halle de la Villette?
150. Donc il y a 150 objets, donc c'est une exposition énorme. Et il y a 60 objets sur ces 150 qui n'ont jamais quitté l'Égypte encore.
Et qui risquent de ne jamais revenir, pourquoi?
Parce que c'est un trésor national égyptien, le nationalisme égyptien.
Et puis un grand musée
focalisé dessus.
Ouais,
enfin,
et voilà. Puis un grand musée qui se construit au Caire aussi, c'est ça, qui va peut-être un petit peu plus monopoliser ces pièces.
Justement, la chance, enfin, c'est une malchance pour l'Égypte, mais la chance pour les Parisiens, c'est que le grand musée ne soit pas terminé, parce que la révolution de 2011 a fait fuir les touristes. Et donc, l'argent n'entrait plus dans les caisses du service d'antiquité.
Oui.
Donc, ces objets, n'étant pas encore au Grand Musée, ont pu sortir une dernière fois.
En fait, on les loue aux Égyptiens, en quelque sorte, ces objets?
Non, c'est pas comme ça que ça marche quand même.
Marc Gabold, avant d'admirer ces objets de Toutankhamon, on va raconter son histoire. Quand a-t-il vécu et que représente l'Égypte à cette époque?
Toutankhamon a dû naître vers 1333 avant Jésus-Christ.
On est sûr ou c'est plus ou moins...
À quelques années près, c'est en gros la fourchette la plus vraisemblable. Et c'est le fils de Jean Célèbre, on est dans du beau monde, la belle société, puisqu'il est le fils, à mon avis, d'Akhenaton et de Néfertiti.
Ah c'est, oui, c'est ouais. Des noms connus, ça. Voilà. Et l'Égypte, à l'époque, c'est quoi? C'est une grande puissance?
C'est la grande puissance de l'époque, avec les Hittites au nord, en Turquie, qui sont un petit peu les concurrents des Égyptiens. Mais l'Égypte domine, je dirais, ce monde proche-oriental. Ils sont quand même menacés par les gens de Palestine, les gens de Turquie, les gens du Haut-Euphrate.
Et le pharaon, c'est le grand boss, hein, c'est ça, c'est le maître absolu. Il règne sur quoi? Quels sont ses pouvoirs?
Le pouvoir du roi, c'est surtout un pouvoir rituel. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il doit faire, c'est entretenir le culte, construire des temples, agrandir les frontières de l'Égypte. Mais il n'a pas tellement de rôle politique, on dirait que c'est plutôt l'administration qui marche toute seule.
Et on sait comment Toutankhamon est devenu pharaon en Égypte? Comment il a été choisi?
Oh, choisi. Non, c'est pas très bien. En fait, entre la mort d'Akhenaton et l'arrivée sur le trône de Toutankhamon, c'est l'une des périodes les plus compliquée de l'histoire égyptienne et tous les égyptologues ont un avis différent d'ailleurs sur cette période.
Pourquoi c'est compliqué ?
Parce que
il y a des textes
qui sont contradictoires. On a au moins un pharaon mâle, on ne sait même pas s'il a régné, qui s'appelle Smenkhkaré. On a un pharaon femelle, c'est certain. Certains pensent que c'est Néfertiti. Moi, je pense plutôt que c'est la fille aînée d'Akhenaton et Néfertiti, de la princesse Méritaton, qui a donc écarté son petit frère du pouvoir.
Alors, Dominique Farou, on va commencer notre visite de l'exposition. On choisit un objet là, dans cette expo qui va ouvrir le 23 mars à la Villette. Une canne, alors je ne vais pas la décrire aussi bien que vous, donc je vais vous laisser faire. Je vais juste dire qu'elle est, elle me semble dorée. Voilà, c'est quoi cette canne?
Oui, alors elle est en bois doré. La partie supérieure, donc elle est d'abord courbée à une de ses extrémités, c'est l'extrémité inférieure. À la partie supérieure, elle est décorée d'une fleur de lotus, qui est un symbole de renaissance et un symbole solaire, parce que selon la cosmogonie thébaine, la création du monde.
Mais attendez, vous nous avez dit que
le soleil est né d'un lotus.
Ah, c'est joli. Voilà. Vous nous avez dit que cette canne était courbée, d'accord, oui. Mais que c'était dans sa partie inférieure. Donc elle servait à quoi? Elle servait pas
alors
à marcher.
Justement, alors elle ne servait pas à marcher. À la partie inférieure, on a la représentation d'un ennemi potentiel. Ouais. Donc celle qui est présentée représente un Syrien, je vais dire un Levantin, parce que. Mmh. Voilà, on le reconnaît à sa barbe, etc.
Donc c'était pas pour marcher, mais c'était une sorte de sceptre, c'est ça?
Ça sert
pour
à frapper, en fait, magiquement, un ennemi potentiel, lors de rites, comme l'a bien montré Marc. C'est, une des activités principales du roi, c'est de célébrer des rites comme ça de protection.
C'est un objet rituel, cette canne, c'est ça qu'on peut observer. Il y en a plusieurs dans son
tombeau. Oui, il y en a un grand nombre. Alors, en fait, on a des cannes dites de marche, mais en fait, ce qui servent aussi à écrire le mot, ça fait un jeu de mot avec le mot médou qui veut dire canne et qui veut dire aussi parole, et ça sert à comment dire, ça exprime la capacité de parole impérieuse du roi.
Mais tout en Camon, est-ce qu'il se servait de ses cannes? Parce que je crois qu'il avait un pied beau, non?
Alors,
donc
oui, il a
peut-être
pied beau,
une démarche difficile.
Alors il a un pied beau, à ce niveau-là il a des problèmes, mais je serais incapable de vous dire s'il était obligé de marcher avec des cannes ou pas.
Bon, je ne suis même pas sûr qu'il ait eu un pied beau parce que
ça fait partie des légendes.
Voilà, j'ai regardé toutes les sandales. Moi,
attention,
les sandales avec lesquelles il a marché, et elles sont absolument symétriques. Il n'y a pas de sandales orthopédiques. Donc pour moi, il n'avait pas de pied beau. Et simplement, lorsque l'on a démonté la momie l'autopsier, les connexions anatomiques étaient plus très bien conservées. Donc on peut dire n'importe quoi sur la forme des pieds de Toutankhamon, mais à mon avis, il n'avait pas du tout de pied beau. En revanche, qu'il ait eu des difficultés à marcher, ça me semble assez assuré, parce qu'il est représenté, par exemple, en train de chasser, assis sur un fauteuil. En général, on ne voit pas ça.
Ce n'est pas très logique.
Voilà, en même temps, ça, bon, on c'est va l'héritage d'iconographie de l'Ancien Empire. Voilà, le roi chasse sur son trône.
C'est quoi, on va mettre une petite couvre et continuer à discuter entre vous. C'est normal.
Et on va se poser cette question sur la mort de Toutankhamon, parce qu'il meurt à moins de 20 ans. A-t-il été assassiné? A-t-il succombé à une foudroyante septicémie? Réponse dans un instant sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je suis le pharaon d'Égypte et je suis lié par des obligations qui m'ont été imposées par les dieux.
Personne n'a peur de vous. Vous êtes l'enfant roi qui vit caché dans son palais.
La curiosité est un vilain défaut.
Je ne sers que les intérêts supérieurs du royaume d'Égypte.
Non, général, vous servez le pharaon.
Sur RTL.
Peuple d'Égypte, je suis ton pharaon!
Toutankhamon, le trésor du pharaon, c'est l'exposition événement qui ouvre ses portes le 23 mars à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et vous avez de la chance, les curieux, car on vous l'a fait visiter en avant-première avec nos invités, les égyptologues Marc Gabold et Dominique Farou. Alors on est là aujourd'hui, 52 ans après ce qu'on avait appelé l'exposition du siècle en 1967. Combien de visiteurs étaient venus admirer comme ça les trésors de Toutankhamon à l'époque?
Plus d'un million.
Je sais pas, 1 200 000, ouais, c'est 1 200 000.
Ces trésors, est-ce qu'ils étaient revenus en France depuis 67?
Alors oui, en partie, enfin pas à ce point-là, mais il y a eu déjà un certain nombre d'objets qui étaient venus pour l'exposition de Ramsès II de 76. Je l'ai vu 8 fois. Et puis il y en avait quelques-uns à Tanis aussi, et puis à Monaco. Mais bon, pas en nombre comme ça. Comme,
pourquoi elle a autant plus cette exposition? Qu'est-ce qu'il y avait d'incroyable à l'époque de découvrir ces trésors de Toutankhamon?
Au moment de l'exposition,
oui. En 67.
Ah bah, je pense que
c'est quoi? C'est la légende de la découverte, oui, du tombeau qui a fait la célébrité de Toutankhamon. C'est
comment je pourrais dire? On n'a jamais vu. Hein, vous rendez compte? 5300 objets en or, enfin, etc., etc. Alors, un pharaon complètement inconnu qui ressort. Enfin, il y a tout. Il y a tout, en fait. La légende de la malédiction. Enfin, si on additionne tout ça, d'ailleurs, si nous ne le vivions pas et qu'on inventait ça dans un film, on se dirait ça fait un peu trop pour un seul homme, quand même.
Marc Gabold, dans les objets qu'on peut décrire et découvrir dans cette exposition, alors nous, on a choisi, on n'y connaît rien, donc vous allez nous dire s'ils sont importants ou pas.
On y va.
Il y a cette statue protectrice. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
C'est une statue qui se trouvait, il y a une paire de statues qui se trouvaient de part et d'autre de l'accès à la chambre funéraire.
Oui.
Et en fait, on les appelle des statues gardiennes. Et en fait, ce sont des effigies du roi qui est un petit peu assimilée à une forme solaire. Et elles sont peintes en noir parce que c'est une des couleurs que l'on passait au moment de l'inhumation sur les statues. Mmh. Donc c'est une statue du pharaon, il est représenté tout en majesté, mais elle est à la fois une image du roi et une image du gardien qui va garder l'entrée à la chambre funéraire.
Dominique Farou, elle est à taille humaine, c'est quoi sa mesure?
Elle est plus grande que taille humaine, oui.
Donc
elle
ça fait quoi, un mètre
1m80, 1m90, quelque chose comme ça. Alors que Toutankhamon, il devait faire 1m65, ce qui n'est pas si petit pour l'époque. Hein. Voilà, donc il a le Némès sur la tête.
C'est quoi
une coiffure royale en tissu. L'Ureus au front, c'est la fille du soleil qui est un cobra dressé qui crache des flammes contre ses ennemis. Un collier large, un pectoral en forme de chapelle.
Alors un pectoral, c'est quoi?
C'est un bijou qui se pose sur la poitrine.
Oui.
Hein, voilà, et qui est en forme de chapelle avec un scarabée à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Il a un panier de vanteau triangulaire empesé avec des décors d'orfèvrerie.
Il s'habillait comme ça, Toutankhamon?
Dans la réalité, j'en sais rien. Parce que, vous savez, on les représente toujours avec les couronnes, les régalias, etc. Mais vous voyez, la reine d'Angleterre, elle est comme ça lors de cérémonies religieuses.
Bien sûr.
Le reste du temps, elle est...
Aussi bien, Toutankhamon avait un jogging pour tous les jours. Enfin, on ne le sait pas, quoi.
Ben, c'est à l'aise. Louis XIV, il était... Vous savez bien, on dit toujours... Les visiteurs disent toujours qu'il était toujours moins bien habillé que les princes, etc., autour de lui. Et que c'est par sa position qu'on savait que c'était lui.
Marc Gabold, ce tombeau de Toutankhamon, il est un peu particulier, il est plus petit que les autres. Pourquoi ?
C'est certainement pas le tombeau qu'il avait fait envisager pour lui-même. Visiblement, il a été enterré, je dirais sinon hâtivement, dans un tombeau qui a été vite adapté pour cela. Mais c'est pas la seule particularité de ce tombeau. Moi, je pense que le tombeau original de Toutankhamon, c'est celui d'un de ses successeurs, celui d'Horemheb, qui était inachevé au moment de la mort de Toutankhamon. Donc, on l'a enterré dans cette petite tombe. Mais si vous regardez aussi le mobilier, une bonne partie n'est pas le mobilier de Toutankhamon. Donc,
mais
on peut dire
parce
que la tombe de Toutankhamon n'est pas la tombe de Toutankhamon, et le trésor de Toutankhamon n'est en grande partie pas le trésor de Toutankhamon.
Mais tout ce matériel là qu'on trouve dans le tombeau de Toutankhamon, le mobilier, les bijoux, les objets, c'est des choses qu'il utilisait au quotidien ou c'est des choses qui ont été fabriquées en son honneur et pour le passage vers l'éternité?
Les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est du mobilier purement funéraire, mais une partie des choses qui ont été prises dans le palais.
Alors, mais il est mort brutalement. Sait-on de quoi il est mort? Est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il est mort d'une septicémie? Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Plus ou moins. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort de vieillesse à 17 ans, 17, oui. 18 ans, c'est certain. Et les autres causes de mort à cet âge-là, c'est soit la maladie, soit l'accident, soit le meurtre. Et le meurtre, on n'a pas trouvé de traumatisme létal sur le corps. Donc on pense que c'est plutôt une maladie et peut-être un accident.
Un accident qui aurait tourné en septicémie,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, un accident. On pense qu'il aurait pu se briser le fémur à la hauteur du genou.
Ouais.
La fracture se serait infectée. Dans un pays chaud, c'est normal. Et dans ce cas-là, on meurt tant d'atroces souffrances au bout de quelques jours ou quelques semaines.
Toutankhamon est aujourd'hui le pharaon le plus connu, mais a-t-il eu le temps d'être un grand roi d'Égypte ? On vous raconte son règne court mais intense. Dans un instant sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
À l'intérieur de la pyramide, une des plus incroyables constructions de tous les temps, on ne trouve aucune trace d'un quelconque hiéroglyphe.
Docteur Jackson, vous semblez oublier que le colonel Weiss a découvert des inscriptions et en particulier le cartouche de Khéops à l'intérieur de la pyramide.
C'était une supercherie, une fausse découverte.
Vous avez des preuves ?
La curiosité est un vilain défaut.
Quand l'égyptologie officielle reconnaîtra-t-elle que ce ne sont pas les pharaons de la 4e dynastie qui ont bâti la grande pyramide ?
Sur RTL.
Extrait de Stargate, la porte des étoiles. Et ça fait beaucoup rire nos invités qui sont égyptologues. Et voilà, j'imagine qu'il n'y a pas une fiction. On va parler de Toutankhamon de cette expo. On va continuer dans un instant. Mais un mot là-dessus. Il n'y a pas une fiction qui ne vous fait pas rigoler sur l'histoire des pharaons ? C'est toujours truffé d'erreurs, c'est ça ?
Oui, c'est systématique.
En même temps, vous disiez vous-même qu'il y a une marge d'interprétation. Ouais. Donc pourquoi pas avoir une marge d'interprétation ?
Il y a beaucoup d'hypothèses autour de lui quand même.
Enfin les pyramides martiennes.
On n'ira pas jusque-là. Voilà. Bon, allez, l'expo Toutankhamon qui ouvre le 23 mars à la Grande Halle de la Villette. Je rappelle aussi qu'il y a le magazine Historia qui consacre un dossier spécial en partenariat avec RTL. Et Marc Gabol, tiens, je vais dire aussi que vous sortez il y a le livre Toutankhamon que vous avez publié aux éditions Pygmalion. Tous les objets, là, on a commencé à faire une petite liste de ces objets qu'on va voir dans l'expo et qui ont été trouvés dans le tombeau de Toutankhamon. Est-ce que tous ces objets ont une symbolique, portent un message sur le pouvoir royal, sur le pouvoir spirituel de Pharaon ? Marc Gabold.
Une symbolique, non, ils ont un rôle. Ils ont un rôle, soit en relation avec les livres funéraires, soit en relation, s'ils sont des objets qui viennent du palais, en relation avec la vie quotidienne du roi, qui est ritualisée. Toutankhamon, c'est un petit peu comme Louis XIV à Versailles, c'est-à-dire qu'il n'a pas une minute à lui. Sa vie est réglée quart d'heure par quart d'heure.
Donc ces objets servent à quoi ? On imagine que le pharaon, dans l'éternité, au paradis, je ne sais pas en quoi croient les Égyptiens à cette époque, va pouvoir se servir de ces objets ?
Alors, on peut réutiliser des objets de la vie quotidienne pour l'au-delà. C'est-à-dire que la vie dans l'au-delà est quand même fondamentalement différente et on a besoin d'objets très particuliers pour combattre les forces hostiles qu'il y a dans l'au-delà.
Donc, par exemple les cannes que vous nous avez décrites.
Voilà, ouais. Ça, on sait que dès le Moyen Empire, il est bon d'avoir des bâtons pour combattre les forces hostiles dans l'au-delà. Donc Toutankhamon, simplement comme il est roi, il en a plus que les autres. C'est pas forcément l'indication qu'il avait du mal à marcher. Enfin, on ne peut pas trouver là-dedans l'indication.
Bijoux, par exemple, on peut découvrir un bijou avec une boucle d'oreille, avec une tête de pigeon. Oui. De couleur, la tête est verte. Ça, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a des soirées dans l'au-delà, Toutankhamon doit se faire beau. À quoi ça correspond ?
Alors, là, ce sont les bijoux, ces bijoux-là, les boucles d'oreilles, n'ont aucun intérêt, je dirais, pour l'au-delà. Ça ne fait pas du tout partie des amulettes, des gris-gris des Égyptiens pour l'au-delà. En revanche, ce sont des bijoux qu'il a peut-être portés lorsqu'il était enfant, et seuls les enfants princiers portent des bijoux en Égypte. Ou c'est peut-être aussi quelque chose qui appartenait à la reine pharaon qui a régné juste avant lui. Ça, c'est tout à fait possible. Et l'un de ses bijoux, si vous regardez le poids, s'il l'avait vraiment porté, il aurait eu des oreilles qui descendaient jusqu'au clavicule. Donc, ce n'est pas le cas.
Ouais. Dominique Farou, un autre objet, c'est un pendentif. On a les photos dans le dossier du magazine Historia en partenariat avec RTL. Pendentif qui représente, entre autres, un scarabée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire l'objet et ensuite nous dire quels symboles, s'il y en a, sont attachés à ce coléoptère ?
Lui, il est bien choisi.
Alors dites-nous.
Il y a beaucoup de choses à dire sur cet objet.
Alors allez-y.
Alors déjà, c'est l'objet qui a été porté par le petit porteur d'eau qui est photographié dans l'exposition. Donc avec cet extraordinaire bijou sur lui, enfin ça a dû être le...
Porteur d'eau de quoi ?
Le porteur d'eau de Carter.
De Howard Carter, du découvreur.
Oui.
Il y a un de ses ouvriers qui est un jeune enfant, qui est un porteur d'eau et qui porte ce magnifique pectoral dans la Vallée des Rois.
Donc ça veut dire que ça avait été découvert avant ou qu'il a été trouvé par l'expédition Carter et que ce porteur
c'est au moment c'est au moment de la découverte.
Ouais.
Et c'est pas Ali Abderrasoul d'ailleurs.
Alors, là, vous êtes trop technique pour nous. Là,
Ali Abderrasoul, c'était une vieille famille de pillards de sépultures. Il a vécu, moi je l'ai connu, il a vécu jusque dans les années 90.
Alors le scarabée, ça représente quoi en Égypte ? C'est
le
symbole
alors,
de quoi ?
Alors le scarabée, en fait, un scarabée se dit reper en ancien égyptien, reperer exactement. Mm-hmm. Et venir à l'existence se dit reper. Donc, on fait un jeu de mots. C'est comme si on prenait une vis pour représenter la vie en français.
D'accord.
Donc, il y a un jeu phonétique pour écrire « repère, venir à l'existence ». Et puis, ici, vous voyez que ce scarabée, entendez
on l'imagine.
Que ce scarabée pousse devant lui, en fait, le disque solaire. Et en fait, ça représente la renaissance du soleil chaque matin. Et il est encadré alors par deux babouins. Alors là, il y a un double sens parce que ces babouins ont la lune sur la tête. Donc c'est le dieu Thoth qui est représenté comme ça seulement à partir du Nouvel Empire, qui est le dieu du savoir, de l'écriture, qui est le greffier des dieux, enfin bon, etc. Et en plus, encadré comme ça, ça fait penser aussi aux babouins qui adorent le soleil levant. Donc on sent qu'ils ont joué aux poupées russes au niveau du sens. Cet objet
sens
a une très très grande importance.
Marc Gabold, Toutankhamon a régné quoi, une décennie, c'est ça ? Est-ce qu'il a eu le temps de marquer l'histoire de l'Égypte ? Est-ce que ça a été un grand pharaon, même avec un règne assez court ?
Alors, on a peu de monuments de l'époque de Toutankhamon, mais tout simplement parce que aussi son nom a été effacé par ses successeurs. Et en fait, quand on regarde la documentation, on s'aperçoit qu'il avait un règne ambitieux. On a énormément de tombes, par exemple à Saqqara, qui datent de son règne et qui sont magnifiques. À Louxor, dans le temple de Louxor, il a décoré toute la grande colonnade avec des reliefs merveilleux. Dans le temple de Karnak, qui est l'un des plus grands temples d'Égypte, il s'est surtout consacré à restaurer ce qui avait été mutilé par son père, qui avait fait effacer toutes les images du dieu Amon. Donc là, il a beaucoup œuvrer en faisant des restaurations. Mais quand on regarde, on a des monuments de Toutankhamon jusqu'à la quatrième cataracte, en plein Soudan. On a un temple de Toutankhamon à Kawa.
Donc son influence a été au-delà de l'Égypte.
Oui, tout à fait. Et dans le Delta, on a énormément de monuments de lui.
Vous avez commencé à nous en parler, cette expédition extraordinaire, novembre 1922, menée par Howard Carter. On va vous raconter ça dans un court instant sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
La curiosité toujours sur les traces de Toutankhamon, le pharaon qui revient en France à partir du 23 mars pour cet expo-événement. C'est l'expo-événement de ce début d'année 2019. C'est à la Grande Halle de la Villette à Paris. Toujours avec nous Dominique Farou et Marc Gabold. Vous êtes tous les deux égyptologues. Marc Gabold, vous avez notamment signé une partie du dossier qu'Historia consacre à cette expo en partenariat avec RTL. Alors Dominique Farou, le principe, si j'ai bien compris, de cette exposition, c'est qu'on va, nous, visiteurs, se retrouver dans les traces, dans les pas d'Howard Carter, le découvreur du tombeau ?
Oui, en quelque sorte. Alors, bien entendu, il y a 150 objets sur 5300, mais c'est déjà énorme, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a vraiment une histoire, en fait, cette exposition suit un scénario. Et donc,
On commence par le premier objet que Carter a découvert, en quelque sorte.
C'est pas tout à fait ça, mais on va du plus loin au plus près du roi.
D'accord.
On nous présente d'abord, en quelques mots, comment on a voulu effacer le nom du roi, le faire disparaître, comment Carter l'a cherché. Et puis Carter trouve l'entrée, la porte s'ouvre et on se retrouve devant les vases d'albâtre. Et puis on avance comme ça, toujours plus près du corps du roi, toujours plus. Et on suit un peu en quelque sorte l'ordre dans lequel les objets sont sortis de la tombe jusqu'à ce qui est le plus intime, le plus sacré, le plus... Enfin, voilà, quoi.
Et puis,
à la fin de l'expo, on a l'épilogue avec ce pharaon qu'on avait fait disparaître, qui, enfin, ça y est devenu le plus célèbre du monde, et toutes les répercussions qu'il y a eu sur l'égyptologie, l'égyptomanie, l'égyptophilie, la publicité, le cinéma, etc.
Marc Gabold, un petit risque quand même peut-être de succomber à la malédiction de Toutankhamon pour les visiteurs de l'exposition,
oui.
Parce que tous ceux qui sont approchés de ce trésor ont eu des soucis quand même.
Tout à fait, tout à fait.
Donc c'est vrai, ça, c'est pas une légende ?
Non, non, bien entendu.
Dans nos cœurs,
en, en fait, il y a une quinzaine de personnes susceptibles d'être victimes de cette malédiction. Et c'est très curieux parce que c'est une malédiction qui ignore la parité. Il n'y a que des hommes qui sont morts. Oui. Les femmes ne sont pas... Il n'y a aucune femme qui est décédée. Et puis, il y a beaucoup de gens qui y ont échappé. Hein. Mm-hmm. Carter lui-même. Oui, bon. Et même, on a... Le record, c'est le chimiste de l'expédition, ouais. Harold Plenderless, qui est mort à 99 ans.
Ah bah oui, donc c'est une super malédiction. D'un mot, mais vraiment très rapidement, la momie de Toutankhamon, elle est où aujourd'hui ?
Elle est dans sa tombe. Dans sa tombe, elle est exposée, elle est en assez mauvais état. Je dirais même qu'elle a plus souffert en 90 ans qu'en 3300 ans.
Merci beaucoup.
À vous.
Marc Gabold, il y a donc votre livre Toutankhamon publié aux éditions Pygmalion, ce dossier en partenariat avec RTL, et puis évidemment l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, 23 mars à la Grande Halle de la Villette.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.